Alors maintenant, nous allons passer au cœur de notre réunion de ce soir, qu'il n'est pas temps de nous congratuler, mais que de discuter et d'essayer d'y voir le flic. Alors je lance un peu le débat, moi-même j'y participe très peu, puisqu'il y a ici des gens beaucoup plus compétents que moi pour poser des tas de questions, donc je ne ferai qu'intervenir à taper sur les doigts des pas gentils. Alors je dirais que j'ai lu votre livre, alors j'ai lu dans la version qui nous avait été fournie avant que l'édition commerciale sortie, elle est sortie, mais officiellement elle ne sera en vente qu'à partir de demain, je crois, le 1er mars, c'est ça?
Je peux juste faire
Il y aura une petite minute.
Donc, ce soir, donc, l'autre auteur ne peut pas être là présent, M. Pichon ne peut pas être présent, les auditeurs de Radio Courtoisie le comprennent. Mais lui et moi, nous signerons ce livre, donc Benoît XVI est traditionaliste, lors de la première vente publique, donc, parce que le livre est en train d'être mis en place, première vente publique, vendredi 2 mars de 15h à 19h à la librairie France Libre, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e arrondissement. Donc vendredi 2, tout le monde peut venir se faire dédicacer ce livre par Olivier Pichon et par moi-même. Et ce livre sera en librairie à partir du 5 mars sur tout Paris et quelques jours plus tard sur toute la France. Et vous pouvez déjà le commander sur Amazon.fr ou sur Fnac.com ou sur à la page et tous les sites de vente de livres par correspondance, par Internet. Ce livre est déjà référencé et donc on peut le commander.
Il faut qu'on en parle avant de le proposer à la vente.
On le redira.
Même le produit, même à l'église, quand même, la caisse se fait au milieu, vous voyez, pas au début. Il ne faut pas non plus exagérer. Bon. Alors, je vais vous dire, moi, je vais avoir une remarque, un peu, quelques remarques très rapides. Dans le genre, dans la note de l'aigre-doux. C'est bon la cuisine aigre-douce, vous savez, c'est une grande spécialité chinoise. Vous n'êtes pas un amateur de cuisine chinoise, n'est-ce pas? Non, vous n'êtes pas trop amateur.
Au Big Mac, mais enfin bon,
c'est très bien. Voilà. C'est
aussi aigre-douce.
Décidément.
C'est plus rock'n'roll.
Eh bien, moi, j'aime beaucoup la cuisine chinoise, mais j'en mange peu, mais j'aime beaucoup. Et donc, il y a cette spécialité qui sont un petit peu aigre-doux. Alors d'abord, je dirais, si vous permettez, le titre d'ouvrage. L'ouvrage s'appelle Benoît XVI et les traditionalistes. C'est ce qui a marqué sur la couverture de l'édition, de l'épreuve non corrigée que j'ai eue, mais il se trouve que j'ai vu la nouvelle édition, donc c'est la même chose. Alors je dirais que faut prévenir les auditeurs que le livre présente bien de l'intérêt, mais que ce qu'on va trouver à l'intérieur ne correspond pas à ce qu'il y a sur la couverture. C'est-à-dire que ce n'est pas une réflexion, ce n'est pas une étude sur Benoît XVI et les traditionalistes. En fait, ce qu'on va trouver à l'intérieur, c'est un autre ouvrage que celui auquel on s'attendait, qui va être un exposé, pas vraiment organique, un exposé sous la forme de questions-réponses, en trois chapitres, de ce que l'on suppose être les positions arrêtées de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X dans ce qu'on appelle le processus d'accord ou de négociation ou de rapprochement. Mais ce n'est pas Benoît XVI et les traditionalistes, parce qu'il y a beaucoup de traditionalistes dans le monde qui ne sont pas membres de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X.
Je peux faire une petite intervention.
C'est
que je pense que tous autour de cette table, nous travaillons dans l'édition, proche de l'édition, et vous savez que le choix du titre est de la responsabilité de l'éditeur et non pas de l'auteur, des auteurs en l'occurrence. Et donc ça, c'est la responsabilité d'entre là qui a choisi ce titre. C'est pas forcément celui que j'avais proposé, mais bon.
D'accord. D'ailleurs, je vois pas trop lequel vous auriez pu mettre parce que en plus c'est pas un exposé systématique de la position de la fraternité.
Entretien sur la foi.
Entretien. Je vois que Monsieur Maxence a décidé ce soir de faire dans le chat. Entretien sur la foi, oui, c'est pas mal. Avec. Non, les épichons, pas l'histoire de l'histoire. Mais. Alors, aussi, c'est un autre petit problème, et puis après, je m'arrêterai. Hein, et puis, je vais laisser la parole, comme je disais tout à l'heure, à plus compétent que moi. Et ce n'est pas qu'une figure de style. Qui parle? Et au nom de qui? Et au nom de quoi? C'est un petit peu aussi la question que je me pose. Autant je comprends l'objet du livre, qui est de rendre accessible un débat ou des thèses peu connues dans le grand public, sinon de manière caricaturale, par les grands moyens d'expression qui sont généralement animés par des journalistes qui en connaissent encore moins que le public auquel ils s'adressent sur ces questions-là. Le problème qui m'a un petit peu choqué, mais c'est moi, c'est Daniel Hich qui est choqué, c'est pas nécessairement le lecteur qui va découvrir la problématique, qui va découvrir les difficultés, qui va découvrir peut-être les espérances qu'il y a dans ce livre. C'est de dire, mais bon, l'abbé Cellier, au nom de quoi il parle? Est-ce qu'il parle en son nom propre? Est-ce qu'il parle comme porte-parole de sa fraternité? Est-ce qu'il parle comme de quel? Est-ce qu'il parle du climat? Est-ce qu'il parle au nom de la tendance principale majoritaire aujourd'hui aux affaires? il y a un petit problème qui m'a, je ne vous cache pas, gêné. Je ne vous demande pas de répondre tout de suite, hein, parce que je pense que des questions de cette nature vont être liées par mes camarades journalistes qui se présentent. Donc c'est un petit peu mon premier constat, c'est une chose un petit peu aigre-douce, à savoir qu'il y a des choses très intéressantes, on y reconnaît vos qualités intellectuelles, votre subtilité, votre plasticité à bien enrober les problèmes. En même temps, je dis attention, donc qu'on ne vienne pas reprocher après l'emballage qui est fort beau et l'intérieur qui n'est pas mal non plus ne correspondent pas. Hein?
Alors pas, vous dites, complètement.
Pas complètement. Ça traite un peu de ce problème, mais pas que de ce problème. Bon, ouais. Et puis la question qui me choquait un petit peu, c'était la question de savoir à quel titre vous avez fait ce livre et quel est le degré, j'allais dire, le degré d'autorité du magistère que l'on peut attendre de cet ouvrage. Alors je passe la parole à Philippe Maxence, lui, on l'a décidé, pas, c'est comme ça, c'est normal.
Bien, et puisque le sort m'a désigné, je vais commencer peut-être en donnant, si vous voulez bien, Daniel Amiche, un sentiment général sur cet ouvrage que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. J'allais dire que j'ai éprouvé à la fois justement de l'intérêt et de la déception à sa lecture. De l'intérêt d'abord sur la forme, parce que je trouve qu'il est toujours agréable de lire des entretiens et que ça permet pour le public qui est visé, à savoir, je pense ne pas me tromper là, le grand public qui n'est pas forcément au courant de toute l'histoire qu'il y a derrière la problématique soulevée par la fraternité Spidis, il est toujours intéressant de découvrir ça à travers la rencontre de deux hommes et l'échange et les rebondissements que permettent les questions. Donc ça, c'est l'un des intérêts du livre. J'en vois un autre qui est dans sa tentative d'exposer à la fois le passé, l'origine du problème, et en même temps d'essayer de se projeter un tout petit peu dans l'avenir plus ou moins proche. Donc ça, c'est le premier point. J'ai parlé aussi de déception parce que, en même temps, vous l'avez soulevé, mais je rebondis dessus. Donc c'est pas très bien, pour ne pas dire du tout, à quel titre l'abbé Cellier, qui répond aux questions d'Olivier Pichon, répond. Est-ce que c'est à titre personnel ou est-ce qu'il est délégué par la Fraternité Saint-Pilis? Alors il s'en est expliqué dans le dernier numéro de Fidélitaire. En disant, si je ne me trompe pas, mais je parle sous son contrôle, c'est une version officielle, quelque chose de fichieux, mais c'est une parole autorisée.
Une troisième voix.
Une troisième voix, nous dit Christophe Descaisses, peut-être. J'aimerais l'entendre là-dessus, parce que cette réponse, cette explication me semble un peu sophistique, malgré tout. On a l'impression que la fraternité a envoyé en quelque sorte son commando le plus courageux aller un petit peu de l'avant, prêt à prendre des coups s'il le faut avec le talent qu'on lui connaît, et qu'en même temps elle se réserve au cas où s'il y avait des réactions diverses pour prendre un peu de recul de son côté. Donc ça, c'est
interne ou externe, peut-être, je ne sais pas, j'imagine.
Interne ou externe. Donc ça, c'est la première question que j'aimerais poser à l'abbé Cellier, ce qui peut réellement préciser à quel titre il intervient, d'autant plus, c'est l'autre détail que je voulais signaler, que nous avons un communiqué qui me semble officiel, donc du district de France, nous annonçant la parution et du livre et de cette émission de ce soir. Donc on a l'impression que c'est à la fois très officiel et en même temps très officieux.
Très officieux. Alors, peut-être, vous pouvez, monsieur l'abbé, si vous souhaitez répondre déjà à cette première question.
Alors, je réponds effectivement. Donc, le contenu du livre donc correspond à la position de la fraternité, ça c'est clair, bien sûr avec mon style, hein, ça c'est évident, mais le contenu du livre correspond aux positions de la fraternité, puisque ce livre a été autorisé par les autorités de la fraternité, et à leur plus haut niveau, donc disons-le bien, Mgr Follet, qui a reconnu l'identité de ce que je dis avec les positions de la fraternité et ses positions, pas personnelles, mais enfin qu'il diffuse. Mais Mgr Follet ne veut pas se sentir lié par telle ou telle façon de dire de l'abbé Célier. S'il avait voulu faire un livre, il l'aurait fait lui-même, et à ce moment-là, ce qu'il a dit, c'est bien ce qu'il a dit, mais il ne veut pas se sentir lié, et donc, je parle en mon nom propre, mais en essayant de traduire et de représenter la position de la fraternité. Une bonne partie de ce qui est dit est ad litteram des expressions de Mgr. Il y a pas, si vous connaissez les textes majeurs de Mgr Follet des dernières années, je les ai cités ad litteram. Il m'a même dit, parfois, vous me citez beaucoup. Bon, donc, ce livre cherche, essaye de représenter la position de la fraternité, mais c'est un livre, comme je le dis, ni officiel ni officieux, en ce sens qu'on ne peut pas opposer à Mgr Follet en disant l'abbé Célier a dit ça, donc vous devez dire exactement la même chose avec les mêmes mots. Ça n'est pas. Mgr Follet ne veut pas être dans cette. Mais c'est un livre autorisé. Autorisé dans tous les sens du terme. Autorisé parce qu'il a reçu une autorisation et autorisé parce que ce qui est dit correspond à la position de la fraternité. Maintenant, des choses de style, des images que je peux employer et que d'aucuns trouveront moins bonnes.
Des goûts musicaux.
Voilà, etc. Ça, c'est tout à fait autre chose. Alors, effectivement, le livre est un petit peu à la frontière de choses. C'est peut-être, vous dites, c'est une déception. Je pense aussi que c'est une richesse. C'est une richesse parce que un tel livre ne sortira pas de la plume de Mgr Follet. Donc, c'est parce que la situation ne le veut pas et que Mgr Follet ne veut pas non plus, vis-à-vis de Rome, se trouver à durcir des choses que peut-être il pourra faire encore évoluer. Donc, je crois que ce n'est pas seulement un défaut du livre, c'est aussi une de ses qualités. Ça permet une émission comme cela, libre, ouverte, sur des positions qui, encore une fois, là, je le redis fermement, sont les positions de la fraternité.
Tout d'abord, Philippe Maxence, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse de M. l'abbé Célier?
Disons que je l'attendais tel qu'il vient de nous l'exprimer. Elle n'enlève pas tout le problème, si je puis dire, c'est que finalement la fraternité se permet d'exprimer à travers le talent de l'abbé Célier sa position d'aujourd'hui et se réserve de la possibilité de changer de position si jamais demain ou même tout à l'heure, pour une raison que nous ignorons, les choses ou motu proprio, si je puis dire, enfin de son propre fait, elle décide de changer de position sans plus même sans expliquer.
Juste un mot là-dessus sur cette question.
Alors, Christophe Geoffroy, puis ensuite Christophe
Liguette. Ça me semble être pas un débat fondamental, si vous me permettez, de savoir si M. l'abbé intervient de façon officielle ou à titre personnel, parce que quand on lit le livre de l'abbé Célier, moi franchement je trouve que ce sont les positions qu'on a l'habitude de lire de Mgr Follet et la fraternité Saint-Pie-X, donc de toute manière je ne trouve pas qu'il y aurait un décalage de langage entre le livre et les positions officielles de la fraternité Saint-Pie-X. On pourrait se poser la question et ça pourrait poser un problème, mais c'est pas le cas, donc je trouve que c'est pas très très intéressant de savoir, enfin, si en soi c'est intéressant, mais je pense pas que ça change le fond du problème, eu égard que le livre, pour moi en tout cas tel que je connais les positions de la fraternité Saint-Pie-X, est très fidèle aux grandes positions de la fraternité Saint-Pie-X. Donc je pense qu'on peut discuter de ce livre en pensant que c'est les positions de la fraternité Saint-Pie-X.
Reste à savoir si la fraternité Saint-Pie-X a une position unanime. C'est d'ailleurs l'un des autres points que je voulais signaler, mais là on rentre déjà peut-être plus en avant dans la discussion.
Vous permettez qu'on reviendra sur la question que vous souhaitez poser, mais Christophe Diquet voulait intervenir.
Disons que je considère cet ouvrage bien évidemment comme en fait comme une étape nouvelle. J'ai l'impression que dans le débat qui agite la fraternité depuis la crise de la guérine, mais surtout beaucoup plus important évidemment l'élection de Benoît XVI, je considère comme une étape nouvelle. Est-ce que vous le considérez comme tel? On sait que la fraternité bouge beaucoup, il y a ce fameux DVD qui a été envoyé à tous les prêtres qu'ils demandent, ce n'est pas rien, il y a eu le succès en Allemagne, il y a une présence médiatique, et la présence médiatique, Mgr Lefebvre était le mieux placé pour en parler, et vous le dites d'ailleurs très bien, vous le rappelez très bien dans votre ouvrage, elle est capitale. Si on n'est pas présent au jour de 20 heures, au fond, on n'existe pas. Et je pense que même l'Institut du Bon Pasteur a été très surpris de voir la présence médiatique qu'il a obtenue, alors que peut-être il ne la souhaitait pas forcément. Mais est-ce que donc cet ouvrage constitue pour vous, oui, une nouvelle étape vers ce qui serait un retour de la fraternité Saint-Pédis dans le giron de l'Église.
Je dirais, je ne décide pas de ce que fait la fraternité. J'ai fait un travail. Ça c'est clair, j'ai essayé de faire un travail qui essaye de faire une synthèse qui jusqu'ici n'avait pas été réalisée parce que les textes étaient fragmentaires, étaient dans des situations différentes, etc. J'ai essayé de faire un travail à la fois sur le passé pour synthétiser les positions de la fraternité et également quelques essais de prospective pour le futur, pour essayer de dire ben voilà comment les choses peuvent évoluer, soit de notre fait, soit de la situation générale de l'Église. Et donc effectivement il y a une situation générale qui sur un certain nombre de points évolue et une réflexion à l'intérieur de la fraternité qui essaye de s'adapter à cette situation. Nous ne nous considérons pas comme étant sous le règne de Paul VI, nous ne considérons pas que les choses sont comme en 77, hein. Il y a quand même 30 ans qui se sont passés, beaucoup de choses se sont faites et on essaye de tenir compte de cela, de réfléchir à un certain nombre de choses. Et c'est vrai que par exemple le succès du DVD manifeste, du DVD chez nous, du DVD en Allemagne, manifeste qu'il y a une certaine demande de la part des prêtres, et donc comment nous devons réagir. Comme je dis dans le livre, la fraternité est faite au service du sacerdoce. Donc s'il y a des prêtres qui demandent, par exemple, nos confrères américains ont fondé une maison pour accueillir des prêtres de diocésains, etc., qui veulent apprendre la messe traditionnelle. Nous ne l'avons pas encore fait, mais ce sont des réflexions. Donc, effectivement, j'ai fait un travail, j'ai pas mal travaillé pour ce livre, j'espère que ce livre apporte quelque chose de non négligeable, mais c'est pas un livre qui change la direction de la fraternité, c'est pas moi qui dirige la fraternité.
Et Serge Geoffroy, alors vous voulez intervenir après les prolégomènes, vous voulez aller aux fondamentaux.
Alors je ne sais pas si je vais aller aux fondamentaux, je vais peut-être dire un mot du livre aussi puisque vous m'invitez les intervenants à le faire. Moi je tiens à remercier l'abbé de ce livre car je trouve que ce qui m'a plu moi dans ce livre c'est le ton du livre. Je trouve que c'est un ton agréable, sympathique. On sent chez monsieur l'abbé Cellier un souci de dialogue sur un ton qui est celui qu'on a le droit d'attendre d'un prêtre de l'Église catholique. Donc ça me semble très important. Ça c'est l'aspect que je trouve très positif dans ce livre et aussi c'est l'aspect qui me semble encourageant. Sur le fond en revanche je trouve, ce qui n'est pas surprenant c'est vrai, mais je ne trouve pas qu'il y ait d'évolution particulière par rapport aux positions que l'on peut lire depuis quand même un certain temps, notamment de Mgr Felet. Donc je ne trouve pas là qu'il y ait une ouverture de fond qui me semble très grande. C'est un livre qui s'adresse apparemment à un grand public, donc je pense que le grand public pourra lire ce livre et apprendre quelles sont les grandes positions de la fraternité Saint-Pédis, ce qui est bien pour ce public. Ce que moi personnellement je regrette pour les gens qui liront ce livre sans vraiment connaître le contexte de tous ces événements, c'est que l'abbé Cellier présente notamment dans la partie historique les positions de la fraternité Saint-Pédis avec un parti pris quand même extrêmement fort qui est celui du prisme de la fraternité Saint-Pédis, sans chercher jamais à comprendre quels sont les bien fondés de Rome dans les différentes mesures qu'elle a été amenée à prendre contre la fraternité. Alors je lui demande évidemment pas de prendre le parti pris de Rome, sinon il ne serait plus dans cette fraternité, mais au moins d'essayer de comprendre parfois le bien fondé d'un certain nombre d'actes. Mais ça c'est le passé à la limite, et moi c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéressait dans ce livre, et ce que je trouve le plus important, car moi, à titre personnel, ce qui m'intéresse dans les débats qu'on peut avoir avec nos amis de la fraternité Saint-Pédis, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces chers amis retrouvent la pleine communion avec l'Église, avec le pape. Moi c'est ça qui m'intéresse principalement, et je pense que donc notre débat doit être au service de cet axe. En tout cas moi c'est ça qui m'intéresse. Alors ce qui est un tout petit peu décevant, c'est que toute la problématique autour de cette réconciliation, de ce retour dans l'Église, appelez ça comme vous voulez, occupe en fait une petite partie du livre. C'est la troisième partie et c'est en taille malheureusement pas très 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 développée. C'est la partie d'ailleurs dans laquelle notre ami Olivier Pichon joue à mon avis très bien son rôle d'intervieweur, où il vous titille, il vous pousse dans vos retranchements, et c'est intéressant. Alors moi, quelle conclusion je tire de cela? L'abbé Cellier explique, si je ne trahis pas sa pensée, il pourra me redresser si je me trompe, mais grosso modo sur cette question donc d'un accord avec Rome, l'abbé Cellier développe l'idée qui est celle que Mgr Felet a développée depuis un certain temps, qui est de dire: on on ne peut pas faire un accord tant qu'il n'y a pas un accord doctrinal. Ou si, pour être plus précis, il ne peut pas y avoir d'accord juridique, donc de réintroduction de la phrase impie dans l'Église sous une forme canonique à déterminer, tant qu'on n'aura pas résolu les problèmes doctrinaux. Et je pense que l'élément du débat qui m'intéresse, c'est que je pense que c'est une fausse méthode. Et en fait, j'ai mis un certain temps à comprendre cela moi-même. Pardonnez-moi de donner de m'impliquer personnellement dans cette explication, mais j'ai un côté très rationnel qui fait que toujours après 88, j'ai toujours cru qu'on pourrait arriver à quelque chose avec la phrase Saint Pie X à partir d'un dialogue d'ordre théologique pour lever les objections très réelles que soulèvent les prêtres de la phrase Saint Pie X. Et donc mon côté rationnel fait qu'il m'est même arrivé de disputer un peu ces questions-là à l'époque, beaucoup même avec vous, Daniel, avec notre ami l'abbé Tanoir, du temps où il était encore à la Fraternité. Je garde le souvenir de quelques émissions épiques et je croyais que c'était la méthode. Mais en fait, je pense que cette méthode, elle est vouée à l'échec. Elle est vouée à l'échec, elle ne peut pas marcher parce que aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, les divergences doctrinales sont à vue humaine, je dis bien à vue humaine, absolument infranchissables. Entre ce que développe M. l'abbé Stillet dans ce livre et ce que développent d'autres théologiens de la Fraternité sur différentes questions controversées et les positions de l'Église d'aujourd'hui, il n'y a pas de solution possible. Parce que dès lors où on est dans un contexte de dialogue, de discussion, où chacun croit détenir la vérité ne se partage pas et on peut pas, il n'y a pas de compromis entre une certaine analyse de la liberté religieuse, par exemple, et une autre qui sont des analyses objectivement contradictoires. On ne peut pas arriver à un compromis sur ces questions. Donc aborder le débat et le dialogue d'abord en disant on pose comme préalable un accord doctrinal, c'est voué à l'échec. Je rappellerai d'ailleurs aux auditeurs que deux exemples. D'abord, les dialogues, les échanges doctrinaux ont déjà eu lieu dans le passé. Faire croire qu'il n'en a jamais eu, c'est faux. Je donnerai juste quelques exemples, ce qui me passe par la tête. Un exemple, bon, c'est vrai qu'il n'est pas officiel et qui n'a pas eu de répercussions publiques, mais les prêtres de la fraternité connaissent cet exemple. Il y a eu des dialogues, des réunions dogmatiques qui ont eu lieu dans les années 90, menées du côté de l'Église par les abbayes de Randol et de Foncombeau, et qui ont été, autant que j'ai pu avoir connaissance de ces échanges, qui ont été assez profondément, qui ont abordé de façon assez profondément les problèmes doctrinaux, et à ma connaissance, c'est la fraternité qui a mis fin unilatéralement. Ensuite, sur le plan purement dogmatique, des tas d'échanges ont eu lieu à travers des livres. Quand, je crois d'ailleurs M. l'abbé Stillet dit dans son livre à un moment que sur les questions, les objections doctrinales, en général, personne ne leur répond. C'est pas vrai. Si vous prenez le cas de la liberté religieuse, il y a eu quand même un nombre d'études aujourd'hui qui ont été fournies sur la question, alors qu'on peut critiquer, mais on peut pas ne pas en tenir compte. C'est vrai d'un certain nombre de points, ne serait-ce que pour parler de notre journal à la Nef, quand la Fraternité Saint Pie X a sorti leur étude sur la liturgie. Je crois que nous avons été un des seuls médias à faire une étude de fond, qu'on peut effectivement critiquer, mais c'était pour montrer qu'on prenait au sérieux cette étude. On a consacré un dossier de 12 pages à voir ce qu'il y avait de positif et de négatif dans cette étude. Donc je pense que les réponses doctrinales existent. Voilà. Et l'autre expérience qui me montre qu'on n'arrivera à rien sur un plan doctrinal, c'est qu'à chaque fois que dans le passé il y a eu une réconciliation entre d'anciens prêtres, la Fraternité Saint Pie X et Rome, ça n'a jamais été le fruit de débats doctrinaux. Ça a été un événement extérieur particulier qui a fait qu'à un moment donné, une fraternité s'est créée et a été réintroduite dans l'Église. Je donnerai les quatre exemples, évidemment, les plus célèbres. C'est la Fraternité Saint-Pierre en 88, Campos en 2001, l'Oratoire Saint-Philippe-Néry en 2004 et l'Institut du Bon Pasteur en septembre 2006. Donc, ce que je dis, c'est que mettre en préalable l'accord doctrinal, c'est une impasse. Alors, vous me direz...
Pardon de vous interrompre, Christophe, parce que là, bon, c'est les voix que vous...
Vous avez d'occuper un peu micro, mais je
vous
aide
pas assez souvent, c'est pour ça que vous en profitez. Il faut simplement dire, après monsieur l'abbé va répondre, juste pour que les auditeurs comprennent bien, il y a un ensemble de préalables, c'est-à-dire que la fraternité Saint-Pie X met un certain nombre de préalables, un préalable, hein, c'est une chose qui vient avant toute idée même de forme de la réconciliation, c'est-à-dire l'autorisation de célébrer, alors nous sommes dans le domaine de la liturgie, l'autorisation de célébrer dans le missel dit de Saint Pie V pour tous les prêtres, veuille pas l'évêque, Deux, là, on va rentrer dans un ordre un peu plus difficile, juridico-canonique, c'est-à-dire la levée des excommunications. Une fois que ces deux préalables A et A' sont admis par Rome, Rome doit se soumettre à cela. Alors, ensuite, on va passer à une deuxième étape, qui est l'étape de la discussion. C'est-à-dire que les problèmes doctrinaux qui sont, pour lesquels nous avons, nous, Fraternité Saint-Sapidis, nous avons décidé que c'était des choses qui n'étaient pas catholiques et sur lesquelles l'Église errait depuis 40 ans, depuis le Concile Vatican II, eh bien, d'abord, nous devons discuter de ces problèmes à fond pour faire en sorte que l'Église comprenne ses erreurs et qu'elle se convertisse à la tradition catholique. Troisièmement, donc nous sommes en C, nous avons A, A', nous avons B, après nous avons C. C, c'est-à-dire, bon, une fois que tout ça sera fait, nous verrons sous quelle forme, je traduis pour voir que j'ai bien pris mal son, nous verrons sous quelle forme organisationnelle on pourra peut-être envisager éventuellement un rapprochement. Est-ce que j'exagère un peu, l'abbé ?
Oui, je pense que c'est très caricatural, parce que mon livre, précisément, a pour but de désamorcer ces caricatures. D'abord, je dis explicitement que les deux préalables ont un but, redonner une faveur à la tradition, et je dis explicitement que le siège apostolique peut très bien redonner cette faveur à la tradition par toute autre forme, que nous ne disons pas que ces deux préalables soit absolument obligatoire si sous une autre forme, par exemple, le siège apostolique faisait, manifestait que la tradition catholique, et la tradition catholique, je le dis explicitement, c'est tout ce qui est catholique, y compris la soutane, l'habit ecclésiastique, l'amour de la tradition normale de l'Église, qui est son bien commun, soit remis en vigueur. Donc ça, le livre dit explicitement que si le siège apostolique veut procéder autrement, eh bien, nous serons très attentifs à ce qui sera dit. Deuxièmement, et pour répondre tant à M. Amiche qu'à M. Geffroy, concernant les débats doctrinaux, je dis explicitement que à l'heure d'aujourd'hui, c'est la formule qu'a donnée Mgr Follet, mais qu'il est ouvert à ce que ça se passe de façon diverse, donc nous n'avons pas dit, et que nous, je ne sais pas comment ces choses-là se diront, nous disons que nous voyons des choses inacceptables, mais que le but des discussions est d'en discuter. Hein, c'est le but des discussions est d'en discuter. J'ai participé à ces discussions avec Randol et avec Fongombeau. Donc je suis bien placé pour en parler. Ce livre est pour partie le fruit de ces discussions auxquelles j'ai participé pendant 2 ans. Donc il est pour partie. Donc ces discussions de 94 n'ont pas été inutiles parce qu'elles ont permis beaucoup de réflexions et beaucoup d'approfondissements. Mais effectivement, nous disons qu'il y a des problèmes et qu'il faut résoudre ces problèmes. Mais quels sont-ils? Comment sont-ils? Nous les donnons tels que nous les percevons, mais évidemment, le siège apostolique va aussi avoir sa façon de voir. Et je dis dans le livre, explicitement, je rappelle quand même, que nous envisageons de faire un accord canonique, même si tous les problèmes ne sont pas résolus, pourvu que nous puissions, nous, et c'est l'exemple des Ruthen, que nous puissions, nous, garder notre affirmation de foi, même si tous les problèmes ne sont pas résolus, pourvu également, ça c'est, je le dis aussi, qu'il y ait, disons, un coup de barre qui a été donné.
Un coup de barre,
c'est-à-dire que le siège apostolique redonne, je dirais, une orientation traditionnelle à toute l'Église.
Je ne me trompe pas, là, vous n'avez pas dit, je vous caricature votre position, c'est-à-dire, vous attendez de Rome un coup de barre, mais vous n'oubliez pas donner un coup de main un coup de barre. C'est ça?
Si, ah bien sûr que si.
Pour donner un coup de main, il faut être dedans, il faut pas être dehors, on est d'accord.
Mais nous ne sommes pas dehors, tout simplement. Ah. Alors donc là, voilà, là nous bon, c'est une discussion de fond, mais nous ne sommes absolument pas dehors. La fraternité n'est absolument pas en dehors de l'Église. Et alors, concernant les accords canoniques finaux, je dis explicitement dans le livre que le mot accord n'est pas un mot malheureusement qui est passé dans l'usage et qui n'est pas un bon mot, car une partie de l'Église ne fait pas un accord avec le siège apostolique, mais le siège peut faire une demande et recevoir, même si, il ne faut pas se faire d'illusions, même si les termes en sont discutés avant, mais on peut faire une demande au siège apostolique et recevoir du siège apostolique quelque chose, mais ce qui est au cœur du livre et ce qui est le cœur de la position de la fraternité et ce qui est Olivier Pichon lui-même, donc lui tient qu'il faut commencer par le juridique et finir par le doctrinal. Nous disons qu'il faut commencer par le doctrinal et finir par le juridique. C'est une discussion fondamentale, importante. C'est une discussion qui ne pourra pas se résoudre de façon mathématique, puisque c'est une discussion sur des choses qui doivent se faire. Donc on ne peut pas, personne ne peut dire, ni M. Geffroy, ni moi, ne peuvent dire il y a une méthode qui marchera et l'autre qui ne marchera pas. C'est pas vrai. Mais nous avons analysé la chose et voilà ce que nous proposons. Et ce que nous proposons, quitte à ce que le siège apostolique, à partir de ce livre ou de toute autre chose, nous dise non, ça ne nous paraît pas une bonne méthode, voilà ce qu'on propose, on fait une contre-proposition. Parce que il faut faire avancer les choses. Donc, voilà.
Mais j'ai l'impression.
Christophe Diques, je vais vous présenter.
J'ai l'impression à vous lire que justement vous apportez une sorte de cadre, vous essayez de dessiner progressivement ce qui pourrait être le futur. Et ça, c'est important et ça me semble nouveau. Je pense que il y a une grande nouveauté aussi, finalement, c'est votre couverture, c'est ce pape Benoît XVI. Qui constitue à mon sens, et c'est le discours, c'est pas mon discours, c'est le discours notamment de l'institution Pasteur, une nouveauté vu que c'est le nouveau pape, et une opportunité. Mais alors, ce qui me surprend, si vous voulez, dans votre livre, c'est que moi j'ai lu des choses que je n'avais jamais lues par ailleurs, et je pense bien être au courant de ce qui se passe dans la fraternité, quand par exemple vous dites, page 86, je me permets de faire une longue citation, au-delà des intuitions et des premières analyses forcément fragmentaires, il faudrait qu'une étude vraiment globale, vraiment systématique et vraiment scientifique du Concile soit réalisée. Ça veut dire qu'elle n'existe pas, ou elle existe peut-être à l'état embryonnaire, à un échelon international, c'est très important, en mobilisant les ressources du traditionnalisme, entre guillemets. Du traditionnalisme mondial et en tant que de besoin, en libérant des hommes de valeur pour ce travail. C'est un appel aux autres instituts, ça ? Ou vous entendez le traditionnalisme, entre guillemets, comme simplement la fraternité Saint-Pidis ? Parce que...
Le traditionnalisme est défini dans le livre à au moins deux ou trois reprises. Hein, je rappelle que je distingue traditionnalisme et traditionnel, et que le traditionnalisme, dont le fer de lance est la fraternité Saint-Pidis, est constitué d'un certain nombre aussi d'autres instituts amis qui combattent et qui ne sont pas la fraternité Saint-Pidis, mais...
Oui, quand vous dites amis, c'est...
C'est les capucins, les dominicains, mais qui sont amis de nos positions, qui sont proches
d'accord,
de nos positions.
Ça.
Voilà. Mais, donc
c'est la mouvance de la fraternité Saint-Pidis.
D'accord, parce que vous avez par ailleurs quand même des mots, je me permets de vous couper, des mots très indulgents à l'égard des instituts comme la fraternité Saint-Pierre, l'institut Montpasteur, etc. C'est une autre page, page 218. Donc je ne me sens aucunement la mission de juger les consciences à propos de la création de la fraternité Saint-Pierre. Et je présuppose que ceux qui ont fait ce choix l'ont fait pour de nobles motifs, bien que pour ma part, ces motifs ne me semblent pas convaincants. Cela étant posé, ces instituts existent, ils agissent, et il est facile de constater qu'ils font un certain bien dans l'Église. Et là, évidemment, Olivier Pichon rebondit à juste titre en se disant, mais au fond, vous ne traitez pas ces gens de ralliés, vous ne les jouez pas aux gémonies. On a l'impression vraiment, à vous lire, que vous êtes beaucoup plus indulgent et que, pourquoi pas, une union...
Non, je ne suis pas du tout sur la position de l'union, parce que je pense qu'il y a des différences majeures auxquelles qui me paraissent importantes, mais autre chose est de penser qu'il y a des divergences majeures, autre chose est de dire que tout ce que fait le voisin, si le voisin dit le soleil brille aujourd'hui et que je ne suis pas d'accord avec lui pour autre chose, mais je peux reconnaître qu'il a dit le soleil brille aujourd'hui, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a des choses qui se font, et j'en donne un exemple, il y a eu pendant de longues années, dire si la messe traditionnelle est admise dans l'Église actuelle ou dans les diocèses, ça sera le cataclysme. L'Église, la fraternité Saint-Pidis n'est pas intégrée dans la pastorale des diocèses, mais il y a actuellement, dans de très nombreux diocèses du monde, il y a la messe traditionnelle sans que ça soit le cataclysme. Donc ça, c'est un fait, et c'est pas nous qui l'avons fait, puisque nous sommes pas dans la structure des diocèses. Qui l'ont manifesté, ce sont les instituts ecclésiadéiques, et pas seulement les instituts ecclésiadéiques, puisque aux USA, il y a à peu près dans 100 diocèses de la messe traditionnelle, alors que les ecclésiadéiques doivent être dans une cinquantaine de diocèses seulement. Donc, ce sont des faits, et il faut reconnaître les faits, en toute tranquillité. Je ne partage pas, et je le dis explicitement, partage pas les positions ecclésiadiques puisque je ne suis pas ecclésiadique. Enfin, disons, c'est parce que je ne les partage pas que je ne suis pas ecclésiadique. Mais ce jugement sur la fraternité de Saint-Pierre, il ne date pas d'aujourd'hui. J'ai fait un livre en 1994 qui s'appelle L'Église déchirée, dans lequel, puisque j'en fais des citations, dans lequel j'ai déjà dit ça. Ce n'est pas une nouveauté
absolue. Pas sur le même ton, monsieur l'abbé. En cela que Christophe Dicques a raison, et c'est un hommage qu'on vous rend. Votre livre de 94, dont je me souviens bien, que je me rappelle très bien de ce livre, est écrit sur un ton, permettez-moi de le dire, assez suffisant à l'égard des ecclésiadei, alors que là, justement, et je trouve ça sympathique, vous avez un ton qui n'est plus ce ton un peu suffisant de mépris à l'égard de gens que vous estimiez quand même un peu comme des égarés. Et je trouve que c'est très bien, ça montre qu'il y a une évolution, au moins dans la perception de ce que sont les autres. Je voudrais, si vous me permettez, Daniel, je serai moins long que tout à l'heure, mais oui. Je voudrais, au bout de mon idée, parce que je n'y ai pas été, d'abord, en étant d'accord avec M. l'abbé Stellier pour dire qu'il n'y a pas de méthode miracle, s'il y en avait une, évidemment, je la dirais tout de suite et je la proposerais à la fois à Mgr Felet et au pape.
Moi, je la vendrai.
Je n'en connais pas. Mais il me semble quand même qu'il y a, encore une fois, on peut se servir de l'expérience du passé et d'essayer de voir les choses avec un esprit un peu nouveau. Je disais tout à l'heure que je pensais, moi, personnellement, que le préalable doctrinal était indispensable. En réalité, évidemment, il faut qu'il y ait des discussions doctrinales. Je pense que, et ça, monsieur l'abbé Célia a également raison, de dire qu'elles peuvent se faire, il n'y a pas un ordre chronologique obligatoire, et il y a aujourd'hui des incompréhensions apparemment extrêmement grandes entre le magistère de l'Église et la fraternité Saint-Pie. Donc, tout ce qui va dans le sens d'une discussion théologique avec des gens compétents et qui sont représentatifs des deux camps est une chose qui me semble souhaitable et bonne. Je dis simplement qu'aujourd'hui, nous vivons, et Olivier Pichon assiste à plusieurs reprises dans le livre, nous vivons une époque particulière, l'élection d'un nouveau pape, qui est un pape malheureusement déjà assez âgé, donc dont on peut penser qu'il ne restera pas sur le siège de père pendant 25 ans, un pape qui connaît parfaitement bien les milieux traditionnalistes. Je crois qu'aucun autre candidat au souverain pontificat ne connaissait aussi bien à la fois la fraternité Saint-Pie et toute la mouvance traditionnelle. Donc là, on est dans l'histoire à une espèce de tournant, et il y a comme une balle à saisir au bon, ce que Olivier Pichon a essayé d'expliquer à l'abbé Cellier, qui d'ailleurs je crois a été sensible à ses arguments, de savoir qu'aujourd'hui il y a une situation particulière dans l'Église qui rend les choses peut-être plus faciles qu'elles ne l'étaient il y a quelques années. Or, je pense que aujourd'hui la chose telle que je vois la chose dans la fraternité Saint-Pie X, c'est que le but qui me semble le premier à atteindre en disant cela, je crois me faire l'interprète de la position de Rome, c'est d'essayer de trouver une situation canonique à la fraternité Saint-Pie X. Évidemment, ça ne résoudra aucun problème de fond sur les objections que la fraternité Saint-Pie X lance au magistère. Il me semble que la réintégration canonique de la fraternité Saint-Pie X aura un effet psychologique fondamental qui est de nature à changer l'état d'esprit sur la façon de voir les problèmes dans l'Église. Parce que, après tout, écoutez, soyons sérieux, l'Église n'est pas qu'une société humaine, nous sommes tous d'accord là-dessus. Il y a une grâce de la communion, parce que nous croyons au surnaturel. Et le fait qu'une société comme la fraternité Saint-Pie X, je ne veux pas dire qu'elle soit schismatique, je ne veux pas entrer dans ces polémiques, appelons ça comme on veut, soit en rupture de communion, pour employer un terme qui est quand même, à mon sens, assez objectif, parce que je pense qu'il y a quand même une rupture de communion.
Est-ce qu'il faut que le discours quand même évolue beaucoup, Christophe Geoffroy, parce que vous dites, vous n'utilisez pas schismatique, alors qu'en 88, 89, 90, on l'aurait utilisé. Donc en fait, nous sommes tous autour de cette table.
Mais moi le premier, d'ailleurs, bon, si vous voulez, de toute manière, quel est le but dans une discussion? On essaie de faire avancer les choses. Moi, je ne dis pas forcément tout le fond de ma pensée, parce que j'estime que ce n'est pas constructif, je veux dire, ce n'est pas intéressant. Moi, si vous voulez, si demain il y a une réconciliation avec la fraternité Saint-Pie X, mais tous mes griefs passés s'envolent, j'en ai aucune importance. Et même si on est plus ou moins les dindons de la farce d'un accord, je dis Deo gratias, tant mieux. Le but, c'est de chercher le bien commun de l'Église. La fraternité Saint-Pie X représente un nombre de prêtres quand même assez important dans l'Église. Même si à l'échelle de l'Église universelle, c'est pas grand-chose. Mais nous, en France, et avec les sensibilités qui sont les nôtres, ce sont quand même des gens qui sont extrêmement proches de nous, que nous aimons. Ils représentent des prêtres, des fidèles. Je trouve que la situation de rupture qui existe aujourd'hui est en soi une situation absurde. Dans un monde qui est complètement sécularisé, matérialiste et tout, c'est absurde que nous soyons en train de nous taper dessus parce qu'on n'est pas d'accord sur des questions, certes, de fond.
Non, mais je dis... Dessus, là, on discute.
Non, mais c'est très bien, mais... mais je dis aujourd'hui, ce qui me soit la façon la plus positive d'avancer, c'est effectivement si les supérieurs à Saint-Sapidis acceptaient d'aller davantage dans la voie d'un accord. Moi, je suis persuadé que l'accord étant posé, il y a des tas de problèmes qui se résoudront beaucoup plus naturellement que quand on est dans une position hors communion. Voilà ce que je dis. Et ça, moi, je pense que c'était la position de Rome, et c'est une position que j'ai eu du mal à comprendre. Aujourd'hui, je suis persuadé que c'est la juste position.
Alors, juste un commentaire sur votre long... alors, c'est un commentaire, là, hein, sur le long exposé, puis c'est l'ABC doit s'exprimer le plus possible. C'est-à-dire que ce que vous-même proposez, l'abbé, notamment, par exemple, sur ce rassemble d'aspects du Concile de Vatican II qui poserait, ou qui pose problème, d'un point de vue de la théologie précédente, d'un point de vue de la nouveauté de ce qu'exprime le Concile, par rapport à des, peut-être des mentalités, je dis pas ça pour vous, des mentalités qui n'auraient pas, seraient pas tout à fait de l'époque considérée. Cette demande de réception, de discussion du Concile, elle vient aussi des autorités mêmes de l'Église. Elle est à la fois ce que me semble-t-il le pape Benoît XVI a dit, le fameux bon discours à la Curie, mais c'est aussi ce que le cardinal Ricard a dit très récemment, qu'il fallait remettre, il fallait se remettre à réétudier sérieusement les textes du Concile. Parce qu'il y a ceux qui défendent le Concile qui l'ont pas lu, ceux qui critiquent qui l'ont pas lu.
Qu'on aurait jamais entendu il y a 10 ans d'ailleurs. Le Concile à nouveau frais, on n'aurait jamais entendu ça.
C'est quand même intéressant. Monsieur Labbé, on va vous laisser la parole parce que Christophe a dit des choses intéressantes, ou moi des bêtises, mais c'était intéressant
de
répondre.
Non, mais bon, effectivement, ce livre témoigne, essaye de témoigner, un de ses buts, essaye de témoigner qu'un certain nombre de choses évoluent et que nous sommes attentifs à ça. Et ça, je le dis explicitement, nous sommes attentifs, et quand je dis nous, c'est Mgr Follet, l'abbé de Cacré, les divers échelons sont attentifs à un certain nombre d'évolutions dont il faut tenir compte. Nous ne disons pas, nous sommes sur les mêmes principes qu'en 75, qu'en 85, qu'en 88, etc. Mais nous ne sommes pas dans la même situation. De fait, il y a des choses qui se sont aggravées, par exemple la sécularisation dont parlait M. Geffroy, et il y a des choses qui se sont améliorées, etc., etc. Je note quand même que lorsque l'on dit « oui, mais rien ne se résoudra par les discussions doctrinales », on l'a dit pour la question de la messe, et un combat de 30 ans fait qu'aujourd'hui, tout le monde dit « mais cette messe n'a jamais été interdite ». Je rappelle quand même que Paul VI, dans des discours absolument capitaux en 76, a dit « cette messe est interdite ». Maintenant, tout le monde dit « mais il n'y a aucun problème, quel est le problème de cette messe ?» Non. Donc ça veut bien dire que ce combat que nous avons mené, et quand je dis « nous », on n'est pas les seuls à l'avoir mené, mais enfin, on a quand même été les premiers, et on a quand même porté une grosse partie du combat, eh bien, on aboutit à un résultat réel, objectif, constatable. Donc ça, je crois que c'est important. Pour rebondir sur ce qu'a dit M. Geffroy, il y a quand même... J'entends quelque chose assez extraordinaire. J'entends quelque chose d'assez extraordinaire. Et je suis prêt... Alors là, ça changerait toute la donne. Il dit, vous n'êtes pas d'accord avec le Concile, mais qu'à cela ne tienne, on va faire un accord canonique. Alors si c'est ça... Il n'y a aucun problème. Si effectivement Rome nous dit vous refusez la liberté religieuse, vous refusez ceci et ça, aucun problème, mais on vous donne un statut canonique. Ah ben nous on l'accepte. Nous on n'est pas pour être en dehors du droit canonique par principe. Si demain l'évêque de Beauvais, cher évêque de Beauvais, à qui j'écris tous les ans mes vœux de façon très polie et qui ne me répond pas, si l'évêque de Beauvais me dit monsieur l'abbé, je vous délègue pour dire la messe traditionnelle à l'église Sainte-Thérèse, ce que vous faites d'ailleurs fort bien, à Compiègne, et je vous donne tous les pouvoirs nécessaires et suffisants, je ne vois pas pourquoi je les refuserais, n'est-ce pas? J'en serais très content, et nous serions très contents. Donc, la question... c'est qu'effectivement, nous pensons que l'accord n'est pas viable parce qu'il y a des dissensions fondamentales et importantes, doctrinales. C'est pour ça que nous voulons faire... Parce qu'encore une fois, comme on l'a vu dans l'IBP, et comme je le dis dans le livre, l'affaire de l'IBP a montré que si demain nous allons à Rome et que nous magouillons pour avoir un... nous l'aurons. C'est clair. Si demain nous allons à Rome et nous aurons allé, faisons un accord. Rome.
Qu'est-ce que vous soutenez là?
Comme m'a dit un membre de l'IBP, oui. Les gens de Rome sont prêts à passer sous la table pour faire un accord. Donc,
c'est pas bien de balancer ces camarades.
Non, mais ce que je veux dire,
de laisser supposer que tous ceux qui ont eu une reconnaissance canonique de cette nature ont magouillé.
Non, non, mais ce que j'appelle magouiller, c'est de mettre de côté ce qui nous divise. En disant, non, bon, ben, finalement, mettons de côté, et puis faisons un accord canonique. Nous, ça nous paraît absurde. Bon, je ne dis pas que d'autres l'ont fait, encore une fois, selon leur conscience, je ne suis pas à leur place, etc. Mais nous, ça nous paraît absurde et nous ne sommes pas d'accord. Parce que, mais de l'autre côté, et le livre le dit explicitement, de l'autre côté, nous ne demandons pas que tout soit résolu avant de conclure un accord. Nous demandons qu'il y ait une certaine évolution, mais évolution qui, je le répète, s'est faite, a commencé fort fondamentalement de se faire sur la question de la messe, au moins sur la question de la liberté de la messe, et de l'importance de la messe traditionnelle, etc. Et nous pensons que sur un certain nombre d'autres sujets, ça peut avancer. Et même si le discours du 22 décembre 2005 nous paraît moins mirobolant qu'il ne peut le paraître à d'autres, il nous paraît, en tout cas à moi, important. Parce que d'abord, c'est un discours de 85, le discours il date de 85 du cardinal Ratzinger, mais c'est le pape qui le dit au lieu que ça soit le cardinal Ratzinger, donc ça change quand même la nature et la portée. Et d'autre part, effectivement, ça dit un certain nombre de choses de façon explicite, de façon implicite. Et donc, voilà, nous sommes attentifs à un discours comme ça, il y a des tas d'autres choses. Et donc, effectivement, oui, il y a des choses à faire avancer. Alors, si Rome veut demain nous donner un statut canonique, ou si les évêques veulent nous donner, ben nous l'accepterons bien volontiers. Mais ça ne résoudra pas les problèmes.
Mais monsieur l'abbé, est-ce que cette proposition du statut canonique n'a-t-elle pas déjà été faite par Rome? Vous dites, mais si on nous fait cette proposition, je l'accepte tout de suite. Est-ce que ça n'a pas déjà été fait? Non, plus récemment, dans les discussions qu'il y a eu entre Monseigneur Felet et Rome. C'est même, je crois, Monseigneur Felet qui l'a dit, un repas de journaliste, que Rome lui a proposé une administration apostolique à l'échelle de monde. Donc,
oui, mais Rome,
la proposition existe déjà et vous ne l'avez pas saisie.
Non, mais attention, elle n'existe pas dans le sens où Rome nous dirait, et c'est ça qui changerait les choses. Nous reconnaissons votre possibilité de contester le concile. Vous voyez ce que je veux dire?
Contester ou de le discuter ou de... Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est les mots. Les mots sont importants.
J'ai donné l'exemple des rutaines. Nous sommes censés les rutaines.
Si vous contestez tout le concile.
Non.
De la première lettre de la première constitution à la dernière lettre de la dernière déclaration, si tout est mauvais, là,
je crois quand même que ce livre apporte sur cette question du concile, de l'interprétation du concile, il apporte énormément de nuances, hein, énormément de choses dans lesquelles nous reconnaissons que c'est un concile validement. Nous disons qu'il y a un certain nombre de bonnes choses, nous disons qu'il y a des points que nous contestons et d'autres que nous ne contestons pas, et je propose plusieurs façons d'aborder ce concile pour résoudre ce problème.
Mais vous faites des choses personnelles. D'ailleurs, on sent que vous allez être...
Mais c'est peut-être ça dont c'est intéressant de parler.
Nous sommes sur Radio Courtoisie et donc Philippe Maxence prend la parole.
Oui, pardon d'intervenir comme ça, mais pour l'instant, on est en train de parler de savoir si par quel procédé les éventuels accords entre Rome et la fraternité doivent se faire. Alors si l'abbé Cellier est autorisé à parler au nom de la fraternité, il ne me semble pas que nous soyons nous autorisés à parler au nom de Rome. Donc je crois que se lancer dans ce débat sur la meilleure procédure, c'est un peu perdre son temps. Ce qui me semble intéressant, me semble-t-il, ça serait de parler un peu plus du livre. Et d'intervenir plus, en tous les cas, c'est comme ça que je veux intervenir moi, c'est plus comme journaliste et obtenir quelques précisions de la part de l'abbé Cellier. Depuis peut-être une heure, on parle de lui. Moi, j'aimerais savoir, en quelques mots, quel est le but précis de ce livre. On sait à quel public il s'adresse, ça on l'a tous dit, c'est au grand public, mais puisqu'il est un livre autorisé, il n'a pas été fait sans raison, donc ça c'est une question assez générale, quel est son but. Et puis une question beaucoup plus particulière qui revient à cette question des discussions malgré tout entre Rome et la fraternité. Vous dites que Rome, enfin, au cours du livre, vous développez ce que Rome devrait faire pour que vous, vous puissiez revenir ou être accepté au sein de l'Église. La question que j'ai envie de vous poser, quels sont, parce que dans tout dialogue, il y a deux personnes et il y a des pas qui sont faits par les deux, quels sont les pas que vous, vous êtes prêts à faire pour, au-delà des discussions, pour aller vers Rome?
Alors, d'une part, je réponds à la première question, quel est le but du livre? D'abord, le livre a une occasion, hein, c'est l'éditeur qui, comme je le raconte dans l'interview de Fidélitaire, l'éditeur qui a contacté Pichon et Pichon qui m'a contacté. Donc, moi, j'ai répondu à cette.
Donc, vous n'êtes pas à l'initiative du livre.
Je ne suis pas à l'initiative du livre, mais évidemment, il répondait à un certain nombre de réflexions de ma part, et donc j'ai eu envie de le faire. Et encore une fois, je le dis, c'est d'essayer de faire progresser la réflexion et progresser le débat autour d'un certain nombre de points. Et donc, dans ce livre,
vos autorités ont estimé que c'était intéressant de le faire.
Voilà. Et que c'était intéressant que la réflexion et le débat soient d'ordre public, donc.
Ah, bien sûr, oui, bien, qu'effectivement, ce livre paraisse pour essayer de... Alors, je crois qu'il y a... Vous allez dire, bon, qu'est-ce que la fraternité propose? Je rappelle que, sur la question des débats doctrinaux, je dis bien que, n'étant pas devin, je ne sais pas comment ça va se passer, et puis que, de toute façon, les discussions ont pour objet de discuter, de savoir. Mais que, dans ce livre, j'ai essayé de désamorcer un certain nombre de caricatures, pas seulement des caricatures, la fraternité, c'est des gens durs, etc. Bon, ça, c'est des caricatures anecdotiques, mais des caricatures sur notre position doctrinale, sur le concile, sur les sacrements, sur l'autorité du siège apostolique, sur notre lien à l'Église, sur qui sauvera l'Église, etc., sur notre place dans l'Église. J'insiste sur le fait que nous ne sommes qu'une petite partie de l'Église, etc. Et je pense que cela, eh bien, c'est quand même une bouteille à la mer qu'il envoyait aux autorités ecclésiastiques en leur disant, ben, vous avez de quoi rebondir là-dessus, vous avez de quoi réfléchir, vous avez de quoi rebondir. Maintenant, voilà, on vous dit... Je tends une perche à un certain nombre de choses en disant, voilà, il y a des... Quand je lis parfois sous la plume d'évêque, j'ai fait un article sur ce qu'ont dit les évêques à propos d'un éventuel motu proprio, bon, ben, il y a des choses qui ne sont pas la position de la fraternité et qu'il faut que... par exemple, Yves Chiron, dans son Aletheia, dit, il serait bon que les évêques de France qui ne connaissent pas bien la fraternité lisent ce livre pour la connaître. Je veux dire. Et un des buts, c'est effectivement de présenter la fraternité sous son vrai jour sur un certain nombre de points, de façon, parce que je veux déblayer pour qu'on ne discute pas de choses fausses. Quand je suis intervenu en 94 dans ces débats, je suis intervenu à un moment, donc je suis arrivé, le débat avait déjà commencé depuis 2-3 sessions, et l'abbé Aulagnier m'a demandé de venir. À l'époque étant supérieur du district de France. Il m'a demandé de venir, et pour un peu débloquer, parce que... Et je suis arrivé, et j'ai fait un petit exposé face à nos interlocuteurs, dont l'un est aujourd'hui membre de la Commission théologique internationale, le père Bonino, à Rome. Et donc, j'ai dit, mais non, la position de la fraternité, c'est pas ça. Si vous voulez, on se bat pas pour la soutane, on se bat pas pour le latin. Enfin, on se bat pour la soutane, pour le latin, mais je veux dire, c'est pas le centre de notre combat. Et ils étaient tout, ah bon. Il faut, et là, je voudrais déblayer des choses qui ne sont pas le combat de la fraternité. Donc c'est sans intérêt. Enfin, je veux dire, ne nous arrêtons pas à des choses qui sont le fruit d'une histoire. C'est pour ça que je raconte l'histoire. Qui sont le fruit d'une histoire. En 1972, les évêques de France ont voulu mettre le cadavre dans le placard. Ce cadavre leur ressort à la figure aujourd'hui, 35 ans plus tard. C'est un petit peu bien fait pour eux. Mais il faut reconnaître qu'un homme comme le cardinal Ricard a pris conscience d'un certain nombre de choses et qu'il essaye, lui, de gérer autrement que le lamentable Marty. Marty a été un lamentable, il a été un mauvais dirigeant de l'épiscopat français. Il a créer une situation dramatique. Aujourd'hui, ses successeurs essayent de débloquer un certain nombre de choses.
Philippe Maxence, et puis ensuite...
Oui, je remercie l'abbé. Je peux dire qu'effectivement, son livre présente bien ce qu'est la fraternité, enfin au moins telle qu'elle veut être perçue. Et ma question n'était pas exactement celle-là. Enfin, c'était une partie de ma question, mais pour me faire comprendre, j'ai peut-être utilisé une image. C'est celle de Saint-Exupéry, donc que vous connaissez bien, du Petit Prince et du renard. Et quand on veut s'apprivoiser, c'est-à-dire c'est le but du dialogue quand même, et pour arriver à une solution, il faut chaque jour faire un petit pas. Vous demandez à Rome que Rome fasse des petits pas, vous nous les expliquez, vous nous les présentez bien, c'est clair. Je veux dire, c'est l'un des intérêts de ce livre, et à ce titre, il mérite d'être lu. Ce que je ne trouve pas en sens inverse, mais peut-être que j'ai mal lu, c'est les petits pas que vous êtes prêt à faire. Je pense que ce livre ne suffit pas. C'est pas simplement en écrivant un livre qu'on fait un pas vers l'autre. C'est peut-être un demi pas, mais peut-être pas un pas suffisant.
En fait, de Christophe Dickès, alors
vous avez une image tout à l'heure. Vous avez dit l'Église, elle a mis le cadavre dans le placard, et puis on a l'impression l'inversement d'une situation. C'est-à-dire que c'est l'Église qui a rejeté. Vous l'expliquez très bien dans des pages que j'ai vraiment apprécié, toute la partie qui s'appelle Passer, la deuxième partie où vous me présentez le combat de Monseigneur Lefebvre. On n'a pas voulu, on n'a plus voulu entendre la tradition, et aujourd'hui en fait on a l'impression que c'est la tradition qui ne veut plus entendre ce qu'il y a de l'autre côté, en l'occurrence l'institution.
Je ne crois pas. Il y a. Donc je vais y revenir.
N'oublie pas mon petit renard.
Voilà. Je vais y revenir. Encore une fois, c'est pour ça que je raconte le passé. Il y a un passif généralisé partout, et donc celui-là, il faut en tenir compte. Et effectivement, il y a des rancœurs, il y a des méfiances, il y a des souffrances de part et d'autre. Le communiqué, je crois qu'il était d'hier, de Mgr 23 à propos des 30 ans de Saint-Nicolas, manifeste que si nous avons des rancœurs, il en a aussi, n'est-ce pas? Bon, ça c'est un état de fait, il faut en tenir compte. Donc effectivement, il y a tout un travail à faire pour essayer de dépasser, dépassionner tout un certain de choses, et ce livre essaye de ce côté-là un travail, ça a été signalé, mais je crois qu'il faut le redire, un travail de forme pour essayer de dépassionner et pour essayer d'avoir un dialogue le plus courtois possible sur ces questions-là. Mais cela dit, nous ne rejetons pas l'institution. Je dis et je redis dans le livre que seule la hiérarchie, c'est-à-dire les évêques couronnés par le pape, pourront sortir l'Église de cette situation dramatique. Ce n'est pas nous. Nous avons notre rôle, nous faisons notre petit travail tel que nous pensons devoir le faire, mais encore une fois, nous ne sommes pas seuls dans l'Église. Il y a, comme dirait un discours célèbre, des forces immenses dans le monde se sont rassemblées pour arriver à la victoire, etc. Donc il y a des choses qui se font. Pour répondre à la question de l'apprivoisement, moi je n'ai pas d'autorité. Le livre est autorisé, mais je n'ai pas d'autorité. Qui fait ces petits pas? C'est Mgr Felet avec Rome. Moi, je ne suis pas à Menzingen. Hein, je ne sais pas ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Hein,
encore.
Et non, je n'espère ne pas y être du tout. Dieu m'en préserve. Mais
c'est mieux que le Mexique. Hein.
Voilà. Mais vous n'y êtes pas allé. c'est au milieu des montagnes avec des vaches et de l'herbe, c'est horrible. Bon, alors donc.
Oui.
Je dirais, moi, j'essaye justement de dégager les abords, de nettoyer. Pour faire essayer un peu progresser. Mais ce n'est pas moi qui vais aller à Rome à dire à Benoît XVI, bon, on va faire comme ci ou comme ça. C'est Mgr Felet.
Faire comme ci ou comme ça, c'est non, pas faire une démarche d'apprivoisement.
Comme si, on va faire, vous, moi, chacun va faire sa partie, etc. Mais ça, c'est pas de mon ressort. C'est pas de mon ressort. Donc, je ne peux pas vous dire ce qui va être proposé par la fraternité. Je n'en sais rien et je n'ai pas l'autorité pour le dire. Moi, j'essaye.
C'est la limite du livre.
C'est la limite du livre, mais ce n'est qu'un livre, hein, c'est pas. Attention. Et encore une fois, si c'était Mgr Felet qui faisait ce livre, je pense et j'espère qu'il ne dirait pas ce qu'il va faire. N'est-ce pas? Parce que précisément, une discussion de ce type-là ne marche que si elle se fait pendant un certain temps de façon secrète, privée, pour que effectivement on n'arrive pas sur des choses impossibles à gérer. Mmh. Qu'on se dise, bon bah voilà, qu'on va faire, attention, non, là ça va coincer. Bon, alors on essaye de trouver une autre façon de faire, etc. Donc il est évident qu'une telle négociation éventuelle ne peut pas se faire au départ publiquement.
Non. Alors, je vais vous demander, messieurs, d'être bref dans vos questions et dans vos réponses, puisqu'il nous reste un quart d'heure, donc ça veut dire qu'on ne peut plus faire des longs tunnels.
Pas de confiance.
Alors, non, parce que l'intérêt, c'est d'avoir peut-être des questions
de
moins de 2 minutes, de laisser parler. Oui, voilà, c'est ça qui est
moins de 2 minutes.
Parce qu'après, nous aurons aussi à faire parler nos auditeurs.
Dans le cadre, justement, des discussions doctrinales que vous avez déjà eues dans le passé, ou de tous les livres que vous avez pu lire de théologiens ou de prêtres qui ont écrit sur des sujets sensibles. Est-ce que vous avez l'impression, c'est une question personnelle que je vous pose, est-ce que vous avez l'impression que, disons, depuis que la Paris Saint-Pie X existe, donc depuis plus de 30 ans maintenant, que sur des points vraiment nodales, des points essentiels de vos objections doctrinales, votre regard était un peu évolué en fonction de ces éclaircissements, de ces lectures que vous avez pu avoir sur des sujets comme la liberté religieuse, l'œcuménisme, enfin tous ceux qui posent les gros problèmes que vous soulevez.
Je pense qu'il y a eu un certain travail de fait de part et d'autre. Encore une fois, et c'est un appel du pied, je ne m'en cache pas parce que je les ai déjà dit plusieurs fois à la Maison Généraliste par écrit, j'appelle du pied, très honnêtement, à ce qu'on fasse un travail doctrinal plus approfondi. Je ne m'en cache pas.
Vous l'avez déjà dit, d'ailleurs.
Voilà, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà écrit dans Fidélité, etc. Donc c'est pas un secret. Mais je crois qu'il y a eu du travail fait de part et d'autre. Moi-même, je lis beaucoup de choses dans ce sens-là, même si je ne suis pas forcément un spécialiste du Concile. Mais enfin bon, j'ai lu récemment un livre sur Ordre de l'Église, Point de Salut par un jésuite, le Père Cisboué, etc. Bon, donc tout ça m'intéresse et tout ça est important. Et il y a, c'est pas forcément une référence, mais enfin c'est un homme important de la théologie française. Mais donc je crois qu'il y a eu un certain nombre de travail de part et d'autre. Je pense quand même qu'il y a un blocage. Je pense qu'il y a un blocage parce que le siège apostolique, pour des raisons que je conçois et que je comprends, pour des raisons, disons, d'autorité, mais d'autorité de fond, pas d'autorité simplement d'autoritarisme, mais d'autorité de fond, n'arrive pas à envisager que nous fassions des objections qui touchent à la foi. Vous voyez ce que je veux dire ? À la foi FOI. Hein. C'est psychologiquement, c'est très difficile pour le siège apostolique, et je le comprends. Et nous, de ce fait-là, une partie du blocage, je pense, n'est pas du fait de la fraternité, il est du fait de la situation réelle, objective. Alors maintenant, comme je le dis, je pense qu'une bonne partie de la résolution de la crise se fera par un dépassement, par un coup de barre dans le bon sens, mais surtout, on ne reviendra pas sur le passé. Et comme je dis, on prendra les choses vraiment bien foireuses, on fera comme pour le nucléaire, dans lequel j'ai travaillé un petit peu, on le mettra dans du béton et on le coulera le plus loin possible pour éviter que ça ne revienne. Les crises de l'Église...
Ça reviendra du coup.
Ont toujours... Les crises de l'Église, on a résolu le problème et puis on a continué. Quel est le vrai pape quel est le vrai pape du grand schisme ? Il n'y a aucune résolution doctrinale. Il y a une coutume de Rome qui dit c'est les papes romains, mais pas plus. Or, je rappelle que dans le grand schisme, il y avait des saints qui ont fait des miracles en faveur de leur pape de chaque côté. Donc, mais l'Église a résolu le problème, elle a retrouvé un pape unique et a continué pour ne pas regarder en arrière. Donc, je crois qu'il y aura un certain nombre de choses. Mais effectivement, je suis très attentif à tout ce qui peut se faire de part et d'autre. Mais moi, je pense qu'il faut aller plus profond dans l'étude doctrinale mondiale.
Autorisez-vous quand même, alors je sais pas, il y a peut-être un ou deux messages. Alors, ne soyez pas préoccupé ou surpris par le fait qu'il y ait peu de messages. Parce que là, la discussion que vous avez, enfin que nous avons, est quand même suffisamment intéressante pour que les auditeurs prêtent attention. Donc, encore une fois, on ne mesure pas l'intérêt d'une émission au paquet de messages qu'on peut avoir sur son bureau. Le contraire n'est pas vrai non plus. Bon, voilà. Alors, on va laisser... Il y a deux, trois petits messages.
Alors, Christophe Geffroy a raison de parler de dindon de la farce à propos de l'avenir des ralliés. C'est déjà commencé pour la Fraternité Saint-Pierre, Versailles, Lyon, Dijon, etc. L'Institut du Bon Pasteur plastronne, mais son tour risque d'arriver. On pourrait appeler cela du salami à la farce. Il explique que sur sa technique du salami, en disant chaque fois qu'une tranche externe moisie ou ramollie, on la coupe. Bon. Et puis.
C'est mal connaître Abel Aguirre.
Oui, mais enfin bon.
Je suis pas sûr que l'auditeur a bien compris ce qu'a voulu exprimer Christophe Geffroy.
Ça m'avait échappé, mais je suis pas très attentif. Donc pardon, Christophe.
Il a bien changé.
L'abbé Cellier peut-il nous citer un seul exemple dans toute l'histoire de l'Église où celle-ci soit revenue à la situation hantée après une crise ? J'attends cette réponse avec le plus grand intérêt.
Alors, là aussi le livre, je crois que les journalistes qui sont autour de moi pourront en témoigner, le livre dit explicitement que nous n'avons pas l'intention de revenir à la situation de Pie XII. Et que je dis, je ne suis ni un empailleur ni un gardien de musée. Nous avons l'intention de dépasser la crise, que l'Église retrouve sa pleine splendeur aujourd'hui, en 2007, 2008, 2009 et non pas en 1958. Je suis né en 58, un petit peu avant la mort de Pie XII, et j'ai quand même vécu depuis ça. J'ai pas l'intention de revenir à l'état d'enfance.
Vous n'avez pas connu, moi j'ai connu. Là.
Voilà. Donc effectivement, nous ne prétendons pas que l'Église va revenir à la situation hantée, dans le sens, nous ne prétendons pas qu'il va y avoir un nouveau Pie XII avec exactement la même situation que Pie XII, mais que l'Église retrouve ses fondamentaux sur les points que nous critiquons. Ça, nous pensons que c'est une nécessité, une obligation pour l'Église, pas pour nous.
Alors encore,
un auditeur demande quel nom de théologien de haut niveau la fraternité pourrait-elle proposer pour des discussions que vous envisagez.
Je ne vais pas. C'est pas moi qui désigne les théologiens auprès du siège apostolique. Quand il y a eu le protocole d'accord de 88, la fraternité a désigné un théologien canoniste. Eh ben, elle désignera qui elle voudra. Moi, j'en sais rien. Je suis pas. Et puis, je pense pas qu'il faille arriver avec l'étiquette de théologien de haut niveau. Il faut être en mesure de travailler, de faire le travail qui est demandé. Maintenant, de haut niveau, de moyen niveau, de bas niveau, bon. À voir.
Et alors, un petit détail, pouvez-vous nous dire de quel DVD vous venez de parler? Détail important.
Rapidement, nous avons parlé du DVD qui s'appelle Célébrer la messe traditionnelle.
Stallone.
Célébrer la messe traditionnelle, qui est envoyé non pas aux laïcs, mais par la lettre à nos frères prêtres, la lettre que nous adressons à tous les prêtres de France, à tous les prêtres. Célébrer la messe de toujours, excusez-moi, mon camarade de Maxence m'indique mon fidélitaire. Célébrer la messe de toujours.
J'ai très attentif, quoi qu'il n'ait pas reçu le DVD, ni aucun journal de cateau d'ailleurs.
Voilà.
On pouvait le demander.
Voilà. Oui. Donc, c'est un DVD qui n'est envoyé qu'aux prêtres, puisque c'est un apprentissage de la messe traditionnelle qui, normalement, n'est pas destiné aux laïcs.
Un laïc avait envie de l'avoir,
Non, il ne peut pas le demander. Il peut le faire offrir à un prêtre de sa connaissance. En revanche, si des dons nombreux arrivent à la lettre à nos frères prêtres, eh bien, l'abbé de la Roque préparera un deuxième DVD destiné aux laïcs.
Sur au grand public.
Voilà, qui expliquera le symbolisme, la théologie de la messe traditionnelle.
Il y a l'édition club et après il y a l'édition... voilà. Donc, alors, monsieur Dickès, Christophe.
Il est souvent, monsieur l'abbé, reproché l'attentisme de monseigneur Felet, et puis vous montrez bien dans votre ouvrage, notamment au moment du concile, que finalement c'est l'alliance, ce que vous appelez l'alliance européenne, dont faisait partie d'ailleurs le cardinal, qui n'était pas cardinal à l'époque, monseigneur Ratzinger, qui est arrivé, qui a réfléchi et qui a agi. Alors, vous parliez de cette réflexion, de ce besoin de réflexion théologique, mais on a l'impression que finalement, Monseigneur Felet attend, d'ailleurs, vous le citez à un moment, vous dites chaque fois que Rome a appelé, Monseigneur Felet est descendu pour aller voir le pape, mais on a envie de dire, mais c'est à Monseigneur Felet d'aller et d'exercer une pression, exactement comme cette alliance européenne qui est exprimée dans un titre, à l'époque c'était le Rhin qui se jette dans le Tibre, eh bien on aimerait que Menzingen s'invite à Rome.
Voilà, je répondrai, encore une fois, je n'ai pas d'autorité, donc c'est pas moi qui décide ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, et je ne le sais même pas ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Cela dit, ma petite analyse, elle vaut ce qu'elle vaut, je crois personnellement que le temps travaille pour nous. Et je crois que temporiser n'est pas forcément une mauvaise politique. Bon, c'est pas moi qui la décide la politique, etc. Mais je crois que temporiser, parce que le temps travaille pour nous. Si vous voulez, moi je donne cette image. Lorsque la marée descend, les rochers sortent. Si je veux dire, actuellement, par exemple en France, la marée baisse, n'est-ce pas? Dans 10 ans. Il restera 7000 prêtres actifs. Eh bien, l'Église de France va devoir faire face à cette chose-là. Il est évident, nous allons avoir des propositions d'Église, l'Église de Pierre, de plus en plus. C'est évident. Parce que ils ont 30 000 églises, ils auront 7 prêtres, ils ne pourront pas tenir ces 30 000 églises. Voilà. Donc je crois que, à certains égards, mais c'est pas moi qui décide de la politique. Hein. Je dis pas que si j'étais le supérieur, je ferais pas autrement, mais j'en sais rien. Mais heureusement, je ne le suis pas, ni pour moi,
messieurs,
ni pour le...
Il nous reste 5 minutes et nous avons 3 messages à lire.
Il faudra quand même rappeler la signature.
Oui. Librairie France Livre.
Que Olivier Pichon et l'abbé Grégoire Cellier signeront le livre Benoît XVI et les traditionalistes, paru aux éditions Entrelacs, lors de la première vente publique, vendredi 2 mars de 15h à 19h à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, 75 005 Paris. Donc 2 mars de 15h à 19h. Si les gens veulent téléphoner pour réserver, c'est le 01 43 25 36 67. 01 43 25 36 67. Et comme c'est un grand éditeur, à partir du 5-6 mars, ça sera dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre.
Alors, Christophe Geoffroy, Philippe Axence, Christophe Diques, sujet, verbe, complément pour eux, pour conclure.
Non, mais je sais pas, j'hésite à poser une question. Olivier Pichon vous pose à la fin une question sur les divisions internes qu'il y a dans la Fraternité Saint-Pédis, et vous répondez, je trouve que votre réponse fait un peu langue de bois. Or, quand on lit votre livre, qui est un livre, encore une fois, j'insiste, au ton très ouvert et très sympathique, et qu'on lit les textes que je reçois régulièrement de Mgr Williamson, je m'excuse, mais sans aucune langue de bois, on ne se situe pas dans la même planète. Comment voulez-vous qu'on ne croit pas en tant qu'observateur extérieur de la fraternité, en vous lisant vous et en lisant Mgr Williamson, qu'il n'y a pas une division? Pour moi, ce n'est pas le même langage. Comment pouvez-vous concilier vos propos et ceux d'un Mgr Williamson?
Mais encore une fois, forme et fond quand même diffèrent fondamentalement. Le style de Mgr Williamson, ce n'est pas le style de la Bessilie, ça, c'est pas un secret, mais Mgr Williamson est dans la fraternité, et il en épouse les objectifs et les méthodes. Qu'est-ce que vous voulez ? S'il n'était pas d'accord, il serait en dehors de la fraternité. Or, il est dans la fraternité. Il a participé au chapitre général qui a réélu Mgr Follet. J'y peux rien, c'est un fait. C'est pas moi qui étais là-bas, je suis peut-être le chef de l'orchestre noir de la fraternité, comme dirait l'autre, mais néanmoins, c'est un chapitre général de 40 membres venus du monde entier qui se connaissent pas forcément beaucoup, qui a réélu Mgr Follet. Et Mgr Williamson en était partie prenante.
Merci Monsieur l'abbé Grégoire-Cellier d'avoir participé à ce débat, c'est bon, animé, sympathique. Merci Christophe Geoffroy, merci Philippe Maxence, merci Christophe Diques. Il nous reste donc malheureusement un message assez triste à annoncer à nos auditeurs.
Serge Le Bequetch nous prie d'annoncer le décès du père de Daniel Le Bequetch. Et les funérailles auront lieu vendredi 2 mars à 10h45 en l'église Saint-Jean-Baptiste, 158. Avenue de Neuilly à Neuilly, au métro Pont de Neuilly, sortie église.
Il a toute notre sympathie à Daniel et à son époux.
Et puis la conférence de l'association Solidarité Kosovo se tiendra vendredi 2 mars à 19h30, salle SEIN, 4 place Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e, sur le thème Situation actuelle des Serbes du Kosovo. Et puis le centre Saint-Paul, 12 rue Saint-Joseph, annonce la conférence de l'abbé Claude Barthes sur le thème Proposition pour une paix de l'Église. Voilà. Le mardi 6 mars à 20h.
Merci amis auditeurs, merci à vous d'avoir participé à ce débat. Alors, moi, pas l'émission en mars, hein, le mercredi soir, on se retrouve, je crois, le dimanche 18 mars de midi à 13h30 pour un horizon autour de la spiritualité cartusienne. Donc, rendez-vous dans une quinzaine de jours. Bonne écoute ce soir de Paul-Marie Couteau dans une demi-heure sur cette même antenne. Et d'ici là, bien sûr, que Dieu nous garde.